Avec Suno Assurance, pensez à renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Raphaël Constant.
Bonjour à toutes et à tous. Le plus souvent, ce sont des troubles de la fonction urinaire qui alertent les hommes sur la santé de leur prostate. Un organe assez méconnu et pourtant essentiel à l'activité sexuelle et reproductrice de l'homme. Changement de volume, douleur, urgence urinaire, troubles de l'érection, ces symptômes, souvent liés à l'âge, doivent pousser à consulter, même si la question reste tabou. Tabou parce que la prostate, pour beaucoup, est un symbole de virilité. Tabou aussi parce qu'aux yeux du grand public, elle est souvent associée au cancer de la prostate. Cancer masculin le plus fréquent dans 96 pays du monde. Un cancer qui évolue lentement et souvent sans symptômes. Un cancer aussi dont le risque augmente avec l'âge. Pourtant, de nombreux cancers de la prostate ne sont pas agressifs. Et quels qu'en soient les troubles, des solutions existent. Un dépistage et des gestes de prévention aussi. Alors, quels signes doivent pousser à consulter? Faut-il forcément consulter à partir de 50 ans? Comment prévenir et assurer une bonne santé de la prostate? Quels sont les traitements adaptés et accessibles selon les régions du monde? Tour d'horizon avec notre invité. Et pour en parler en studio avec nous aujourd'hui, professeur François Desgrandchamps, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris et auteur de l'ouvrage « La prostate, on en parle » aux éditions Hachette Bien-être. Nous retrouvons tout à l'heure en direct du Cameroun le docteur Edouard Hervé Moby, chirurgien urologue de l'hôpital Nkonsamba à plus de 100 km de Douala. Et en fin d'émission, Catherine Solano, médecin sexologue, répond aux questions des auditeurs. Et si vous avez des questions à nous poser ou un témoignage à apporter, nous attendons tous vos appels au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Professeur François Desgrandchamps, tout d'abord, une leçon d'anatomie. Qu'est-ce que la prostate et où est-ce qu'elle se trouve?
La prostate, c'est une glande qui est creuse, perforée. Et l'urine passe au milieu, donc la prostate se situe sous la vessie, l'urine passe au centre de la prostate pour sortir après par la verge. Et donc dès que la prostate va être anormale, les hommes vont remarquer des modifications, soit de la fréquence lorsqu'ils vont uriner, soit de la force de leur jet.
Alors justement, quelles sont les différentes atteintes de la prostate qui peuvent affecter les hommes?
Il y en a trois. Une très très fréquente et qui est pratiquement liée à l'âge, c'est l'adénome de la prostate. La prostate grossit, donc elle gêne un peu la sortie de l'urine. Donc les hommes vont avoir des symptômes urinaires. Donc ça, c'est l'adénome de la prostate.
C'est une tumeur bénigne.
C'est une tumeur bénigne. La prostate grossit avec l'âge. C'est à peu près 20% des hommes qui auront des symptômes. Après, 10% des hommes risquent d'avoir un cancer de la prostate. Et on en parlera tout à l'heure. Il y a deux formes de cancer. Un qui est purement lié au vieillissement qu'il faut pas traiter et l'autre, par contre, qui peut tuer. Et puis la troisième infection qui peut toucher la prostate, c'est l'infection, et qu'elle soit aiguë ou chronique, donc on appelle la prostatite. C'est à peu près aussi un homme sur 10 avec des symptômes qui sont des douleurs. Autant l'adénome, la grosse prostate fait pas mal, le cancer fait pas mal. Quand on a mal, ça peut être une prostatite chronique et la douleur se situe alors entre l'anus et les bourses et irradie le long de la verge.
Et des infections plutôt rares avant 50 ans?
Alors, c'est pas tout à fait les mêmes infections. Les prostatites aiguës peuvent être avant ou après 50 ans. La prostatite chronique, donc l'inflammation chronique de la prostate, c'est plutôt après 50 ans, oui. Globalement, quand même, les maladies de la prostate surviennent, en règle générale, après 50 ans.
Elles sont plutôt liées au vieillissement.
Et liées au vieillissement, absolument.
Et alors, quels sont les symptômes, professeur Desgrandchamps, qui doivent pousser les hommes à consulter?
Alors, pour la prostate qui grossit avec l'âge, donc 20% des hommes vont la sentir, parce que quand la prostate grossit mais ne gêne pas le passage de l'urine, elle peut être grosse, tout le monde s'en fiche. La prostate la plus grosse du monde, encore dans un être humain, fait 3 kilos. Elle était dans un Espagnol à Barcelone. Donc il y a eu plein d'examens de fait, des IRM, des biopsies. Il n'y a pas de cancer, c'est une grosse prostate qui ne gêne pas le patient. On lui a laissé ses 3 kilos de prostate. En principe, je vous le rappelle, une prostate, ça fait 20 grammes. Et donc, quand la prostate grossit et qu'elle gêne le passage de l'urine, donc 20% des hommes, les hommes commencent par se lever la nuit un peu trop. En principe, hommes et femmes confondus, se lever une fois par nuit à 50 ans, et à partir de 50 ans, c'est normal. Donc se lever la nuit est le signe le plus précoce. Puis après, on a des envies un peu pressantes, un peu fréquentes dans la journée. Et puis après, le jet diminue, voire est haché en deux fois. Il faut s'y reprendre pour bien vider sa vessie. Ça, c'est les signes d'adénome de la prostate. Pour le cancer de la prostate, c'est plus compliqué parce que quand les symptômes arrivent, c'est très tard. Parce que le cancer de la prostate se développe dans une zone qui ne gêne pas le passage de l'urine. Donc il n'y a pas de symptômes au départ. Et quand il y a des symptômes, c'est vraiment que le cancer est très gros. À ce moment-là, ça peut saigner. Il peut y avoir une gêne alors sur le passage de l'urine quand c'est très gros ou il y a des métastases avec des douleurs osseuses. Donc il ne faut pas attendre les symptômes pour le cancer de la prostate, mais il faut faire du dépistage par une prise de sang qui est le PSA.
Vous parlez de perte de sang, c'est du sang dans les urines et dans le sperme.
Du sang dans les urines et dans le sperme, absolument.
Professeur Desgrandchamps, est-ce qu'il y a des facteurs de risque particuliers ?
Il y a quelques facteurs de risque. Alors pour l'adénome de la prostate, il y en a probablement chez les jumeaux homozygotes, donc issus d'un même œuf. Il y a effectivement des fréquences d'adénome de la prostate qui sont similaires, quel que soit l'environnement, mais on ne sait pas encore s'il y a des gènes de prédisposition pour l'adénome. Pour le cancer de la prostate, c'est un peu plus clair, ça concerne très peu de patients. Les cancers familiaux de la prostate sont rares, mais existent. C'est quelques familles en France, par exemple, qui existent. Donc ça, les facteurs génétiques, il y en a, mais ils sont peu fréquents. Les facteurs de risque principaux pour les pathologies de la prostate, pour l'adénome de la prostate, c'est la sédentarité, ce qu'on appelle le syndrome métabolique. L'homme qui prend un peu de ventre à partir de 50 ans, il y a une relation entre le tour de taille et la taille de la prostate. Donc plus on est gros, plus la prostate grossit globalement, pour être simple.
Se développe.
Et puis pour le cancer de la prostate, c'est un peu la nature de ce qu'on mange. En faisant attention, on entend ça pour les maladies cardiovasculaires, en faisant attention de ne pas manger trop de graisses saturées d'origine animale, les viandes rouges grasses, la charcuterie, le fromage. Attention aux produits laitiers, pas en excès. Augmenter les poissons, notamment les poissons gras comme le saumon et la sardine, le hareng. Et puis augmenter également beaucoup les fruits et légumes avec la tomate qui est un facteur protecteur réel. Avec le lycopène qui est le colorant rouge de la tomate, le jus de grenade qui peut concerner beaucoup de nos auditeurs d'Afrique où c'est plus fréquent qu'en France quand même. Le jus de grenade protège aussi, c'est un antioxydant. Et puis les crucifères, donc les choux et en particulier les brocolis, c'est les trois aliments qui diminuent le risque de cancer de la prostate.
Et parmi ces facteurs de risque, est-ce que l'environnement peut jouer un rôle ? Je pense notamment aux pesticides ou au chlordécone aux Antilles.
Bien sûr, ça c'est un cas très particulier. Le chlordécone est un pesticide qui a des propriétés œstrogéniques, donc hormonales. Et donc, c'est effectivement un facteur de risque important de cancer de la prostate aux Antilles.
À partir de quel moment, alors, vous diriez qu'il faut écouter son corps, ne pas juste se dire qu'on vieillit et du coup aller consulter ?
Ah, ça, c'est intéressant comme question parce que, en fait, les hommes sont souvent très fatalistes et disent, ben voilà, j'ai du mal à me retenir, j'ai un peu faible et souvent j'ai des érections de moins bonne qualité parce qu'un homme sur deux qui a des problèmes urinaires à cause de sa grosse prostate a des érections qui sont plus satisfaisantes et puis ils se disent, ben finalement, c'est normal, c'est parce que je suis vieux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un peu peur, en fait, hein, parce que les problèmes de prostate sont, vous l'avez dit en préambule, sont associés à une dégradation de la fonction virile, de la fonction érectile. On se dit, je ne suis plus un homme, j'ai problème de prostate. Et puis, à des formes laides, si je puis dire, du vieillissement. Je ne retiens plus mes urines. Voilà. Et donc, au contraire, il ne faut pas être fataliste. Il faut consulter parce que il y a, comme vous l'avez dit aussi, des solutions pour chaque cas. Ce n'est pas normal de se lever la nuit pour uriner. On peut en débarrasser. Ce n'est pas normal d'avoir du mal à retenir ses urines. Ce n'est pas normal d'avoir des érections pas satisfaisantes. Les médecins sont là pour le corriger.
Et alors justement, professeur Desgrandchamps, est-ce que vous, en consultation, est-ce que les hommes viennent facilement vous voir ?
Alors oui et non. C'est d'ailleurs moi j'aime beaucoup cette stratégie des hommes qui prennent rendez-vous, souvent poussés par leurs femmes quand même, pour faire un bilan. Et puis ils rentrent dans la consultation et puis voilà, moi j'ai pris rendez-vous parce que j'avais des problèmes pour uriner, mais ils rajoutent aussi. Depuis hier, ça va beaucoup mieux. Souvent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur, en fait, d'avoir de mauvaises notes, si je puis dire, en passant au tableau, et finalement d'être conduit à l'opération. Les hommes redoutent les opérations. Et il faut dire et répéter que les opérations pour la prostate sont pas fréquentes. Pour adénome de la prostate, on n'opère qu'un malade sur 10. Dans 9 cas sur 10, des médicaments et des modifications hygiéno-diététiques, de la façon de vivre, corrigent les symptômes et on n'a pas besoin d'opérer. Pour le cancer de la prostate, pareil. La moitié des cancers de la prostate n'ont pas besoin d'être opérés. Et donc, souvent, ces hommes minimisent leurs symptômes de peur de finir au bloc opératoire.
Alors, on parlait justement de cette question tabou. Vous, vous constatez, cette gêne à évoquer les problèmes intimes de prostate en consultation.
Très fréquemment, c'est-à-dire que l'homme vient, quand il vient donc quand même, en consultation pour des problèmes urinaires. Et puis, c'est quand on a fini de l'examiner, qu'il se dit, bon, mais finalement, c'est pas si grave que ça, qu'il commence à parler vraiment et qu'il ouvre le fond de son cœur. Et c'est là que les problèmes d'érection arrivent. Parce que, on le sait bien, et si jamais ça n'arrive pas, on pose la question, mais dans l'immense majorité des cas, spontanément, c'est en fin de consultation, quand on dit, bon, bah, finalement, c'est pas très grave, un médicament va suffire, etc.
Que les patients sont rassurés.
Que le patient dit, rassuré, dit, bah, vous savez, en même temps, sexuellement, c'est plus ça. Voilà. Et donc, il y a des médicaments qui agissent sur les deux, des modifications de la vie de tous les jours, de l'hygiène, c'est-à-dire en fait de la diététique, de l'activité physique, qui vont améliorer à la fois les problèmes urinaires et les problèmes sexuels.
Donc c'est important de donner toutes les informations à son médecin pour un meilleur diagnostic. Tout de suite, on va donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé. Et le premier auditeur s'appelle Arnold, il nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Arnold.
Bonjour Raphaël Constant, bonjour professeur.
Bonjour monsieur.
On vous écoute.
Oui, en fait j'ai une petite situation qu'on a vécue avec mon papa qui était atteint de prostatite.
Oui.
Oui, du coup il a voulu, le médecin urologue a diagnostiqué et a voulu opérer. Bon, quelques années auparavant, le grand-père de mon papa avait été opéré et du coup, ça n'avait pas marché. Mm-hmm. Ce tabou-là est donc resté dans la tête de mon papa. Il a refusé de se faire opérer. Et après, on a trouvé un traitement chez un médecin traditionnel. Mm-hmm. Et au bout de 6 mois, la sonde qui était placée au niveau de son pénis a lâché et il a commencé à uriner normalement. Mm-hmm. Et déjà, ça fait près de 8 mois qu'il urine normalement. Mais l'inquiétude, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas les métastases qui se sont formées? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de développer encore cette pathologie dans quelques mois, dans quelques années?
Merci Arnold. D'accord. Pour votre question, professeur Desbranchants, est-ce qu'il y a finalement un risque de récidive?
Alors oui, la question est intéressante parce qu'on a dit au départ qu'il y avait 3 maladies dans la prostate, mais les maladies peuvent s'associer. Et dans le cas du papa de Arnold, en fait, on a l'impression qu'il y avait à la fois une prostate un peu grosse et à la fois une infection. On parle de prostatite et d'opération. Les prostatites, donc les infections de la prostate, ne s'opèrent pas. Donc si l'urologue a envisagé d'opérer, c'est que c'était une prostatite survenant sur un adénome de la prostate, donc un homme qui était gêné pour uriner et qui a attrapé une infection urinaire qui a aggravé la situation. Et donc, le fait de ne pas opérer est tout à fait envisageable. Et d'ailleurs, ça a marché pour l'oncle de cet auditeur. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé le cap aigu de l'infection avec des antibiotiques, eh ben, on peut trouver des médicaments, on l'a dit au départ, on opère qu'un homme sur 10, de l'adénome de la prostate. Donc, on traite la complication qu'est l'infection, et puis après, on va traiter le fond du problème qu'est l'adénome de la prostate, la grosse prostate, par les moyens qu'on a, notamment par les médicaments, et les médicaments empiriques qui sont utilisés par l'oncle de Arnold sont tout à fait concevables. On les utilise aussi en France. Hein. On utilise des extraits de plantes, soit des extraits de palmiers, soit des extraits de pruniers d'Afrique, et qui fonctionnent très bien. Alors, est-ce que ça peut revenir? Bah, le problème, oui. C'est-à-dire que les causes restant les mêmes, c'est que cet homme a toujours un adénome de la prostate, il peut toujours attraper une autre infection urinaire. Oui.
Merci beaucoup Arnold pour votre question et on vous souhaite une belle journée à Yaoundé. Je passe le micro à Djibril qui est à Ziguinchor au Sénégal. Bonjour Djibril, pardon.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
On vous écoute.
Voilà, moi mon problème c'était que 2012 que j'ai senti un peu de problème de prostate. Je suis allé voir un professeur. Bon, il m'a dit que c'est pas grave. Il m'a fait faire une analyse qui est allée en France et est revenu. Il m'a dit, vous êtes un homme. Bon, mais c'est normal qu'après 50 ans, qu'on ait la prostate. Donc, il faut gérer. Depuis lors, je gère cette prostate. Mais entre 2012 et 2018, j'ai eu 3 rétentions.
Ah oui?
La première rétention, il n'y a pas eu de problème. Bon, tout s'est amélioré. La deuxième prostate, la deuxième rétention, Je l'ai eu à Jitanchor. Bon, on a essayé de me monter cette sonde. Cette sonde n'a pas pu passer. Alors, il y a eu une hémorragie.
Oui.
Alors, j'ai eu tellement de problèmes avec ça.
Oui.
Bon, j'ai senti une violence sexuelle depuis lors. Donc, on constaterait même que j'ai une testicule seulement.
Oui. Seulement.
Bon, maintenant, la troisième fois, on m'a soumis à l'opération. Au laser.
Oui.
Au laser. Je me suis senti bien.
Oui, oui.
Mais je sens un peu une faiblesse.
Ok.
Une faiblesse sexuelle.
Ah, sexuelle.
Je n'ai pas tellement d'envie.
D'accord.
Envie, donc voilà.
Ok, alors c'est intéressant votre parcours, parce que donc le blocage urinaire, quand on c'est dû à des grosses à la grosse prostate, sans doute vous avez une prostate volumineuse, et donc le blocage urinaire, quand il y a un premier blocage, 8 fois sur 10, avec des médicaments, les urines repartent et on n'a pas besoin d'être opéré. Par contre, à partir du second blocage, les chances que ça se guérisse tout seul sont très faibles, et donc faut effectivement être opéré. Donc vous avez été opéré. L'opération laser ou pas, on peut en discuter. En principe, le laser, c'est une opération moins complète que l'opération plus traditionnelle avec de l'électricité. Donc le risque avec le laser, ce que l'on voit en tout cas en France, le laser de vaporisation, c'est que la prostate repousse avec le temps et que en 2 ans, bah, finalement, à peu près un homme sur deux a besoin d'une retouche, si je puis dire. Donc le laser peut soigner, pas forcément de façon définitive, mais en tout cas, en principe, n'entraîne pas de problème d'érection, c'est-à-dire que les nerfs de l'érection sont situés de chaque côté de la prostate, alors que le chirurgien opère au milieu de la prostate, donc loin des nerfs. À la différence du cancer de la prostate, où quand il faut enlever toute la prostate, on peut abîmer les nerfs, dans votre situation qui est l'adénome de la prostate, on gratte au milieu pour que l'urine passe mieux, et donc on est loin des nerfs de l'érection, donc il faut chercher une autre cause. L'autre cause peut être, en fonction de votre âge, une baisse de testostérone ou des causes psychosomatiques de problèmes d'érection, parce que vous avez été opéré de la prostate et que vous vous sentez moins viril peut-être, tout ça c'est à discuter, mais il n'y a pas forcément de cause biologique derrière, de conséquences si vous voulez, ou de séquelles. En principe, il n'y a pas de séquelles sur les érections, il y a une séquelle sur l'éjaculation, qui en principe le sperme reste dans la vessie et sort après avec les urines et ne sort pas au moment de l'orgasme, mais l'orgasme, donc le plaisir et les érections sont inchangés après des opérations prostatiques, que ce soit laser ou pas. Est-ce qu'on a répondu à votre question ?
Oui, je vois mieux.
Vous voyez ? Très bien.
Merci beaucoup, merci. Djibril, pour votre question et bonne journée au Sénégal.
Merci, monsieur.
Professeur Desgrandchamps, la question de Djibril m'amène à une autre. Est-ce que les affections de la prostate peuvent avoir un effet sur le système reproducteur ?
Ah oui. Quand on entend par système reproducteur, il y a deux choses. Il y a les érections pour amener le sperme jusqu'au col de l'utérus et puis il y a le sperme. Alors, autant les érections ne sont pas modifiées par les traitements de l'adénome de la prostate, de la grosse prostate, autant les érections sont abîmées par les traitements du cancer de la prostate, que ce soit le traitement du cancer localisé, c'est-à-dire l'ablation complète de la prostate ou les rayons sur la prostate, ou le cancer de la prostate métastasé, quand on donne un traitement hormonal, on castre les hommes chimiquement, et donc les érections baissent. Donc les érections peuvent être modifiées en cas de traitement du cancer, pas en cas de traitement de l'adénome de la prostate. Par contre, l'éjaculation est perturbée dans tous les cas. C'est-à-dire que lorsque on opère un patient d'un adénome de la prostate, la prostate est largement ouverte et donc le sperme n'est plus concentré dans la prostate et s'ouvre donc dans la vessie au-dessus et donc le sperme ne sort plus. Le plaisir est le même, l'orgasme est le même, le désir, la libido, tout ça c'est pareil, l'érection donc on l'a dit est la même, mais au moment de l'orgasme, le sperme ne sort pas. Lorsque l'on traite un patient pour un cancer de la prostate, dans l'ablation complète de la prostate pour cancer, il n'y a plus d'éjaculation du tout. Et dans les rayons pour la prostate, il y a une réduction de l'éjaculat puisqu'on assèche les glandes en les brûlant. Donc il y a de grosses conséquences sexuelles de toutes les affections prostatiques.
Et tout de suite, un autre auditeur, Caleb, qui est à Goma en RDC. Bonjour Caleb.
Bonjour, président Deschantier.
Bonjour madame.
Bonjour, on vous écoute.
Bonjour monsieur, pardon.
Oui, je vous appelle depuis Goma, à la République démocratique du Congo. Ma question est la prostate. Tous les hommes l'atteignent à un moment de leur vie. Ce n'est pas le cas pour moi. Juste savoir comment l'éviter.
D'accord. Alors, oui, effectivement, tous les hommes ont des maladies de la prostate au cours de leur vie à partir de 50 ans, mais tous les hommes ne le savent pas. C'est-à-dire que la prostate grossit chez tout le monde à partir de 50 ans, mais il n'y a que 2 hommes sur 10 qui le remarquent parce que leur comportement urinaire a changé, ils se lèvent la nuit ou le jet est faible. Il y a 1 homme sur 10 qui a officiellement un cancer de la prostate, mais en fait, c'est beaucoup plus. Quand on regarde les séries d'autopsie, en fait, il y a plein de foyers microscopiques de cancer avec l'âge. Donc oui, effectivement, tous les hommes ont des maladies prostatiques à partir de 50 ans, mais finalement, peu en ont conscience et peu ont besoin d'être traités. Donc, on l'a dit, 2 hommes sur 10 pour prostate qui grossit et 1 homme sur 10 pour cancer de la prostate. Donc, comment prévenir ces affections? Il faudrait pas vieillir, puisque finalement, si tous les hommes ont des affections prostatiques, la cause de tout ça, c'est surtout le vieillissement. Mais on ne sait pas comment ne pas vieillir. Donc, comment faire pour atténuer les effets du vieillissement sur la prostate? En fait, globalement, c'est d'être en bonne santé générale. Donc, pour être en bonne santé générale, il faut faire attention à son poids. Il faut pas prendre de poids plus que raisonnable. Faire attention à ce qu'on mange avec une réduction des graisses saturées animales. C'est la viande rouge grasse, le beurre, le fromage, la charcuterie. Attention aux produits laitiers. Augmenter les poissons et augmenter, on l'a dit déjà, les légumes et les fruits. Faire de l'activité physique. Et on pourra en reparler plus longuement. Avoir une vie sexuelle harmonieuse et éjaculer souvent. Plus on éjacule, moins il y a de risque de cancer. Donc globalement, tous les patients auront des maladies prostatiques à partir de 50 ans, mais peu finalement ont besoin d'être traités. Et pour réduire le risque d'être traité, il faut bien vivre en bonne santé.
Alors justement, beaucoup d'auditeurs nous ont posé la question, est-ce que l'activité sexuelle, dans un sens ou dans l'autre, peut avoir un effet sur les maladies de la prostate?
La réponse est oui, définitivement oui. Ça a été controversé pendant longtemps et en fait, l'idée de base, c'est que dans le sperme, il y a des substances qui peuvent être oncogènes, c'est-à-dire que le contact de ces substances au contact de cellules prostatiques peut les modifier et entraîner leur différenciation en cellules cancéreuses. C'est la spermine et la spermidine. Donc, plus on va évacuer ces substances, moins il y aura tant de contacts entre le sperme et la prostate, finalement, moins il y aura de risque de cancer. Et c'est prouvé, mais il faut mettre la barre assez haute, si je puis dire, puisqu'il faut éjaculer plus que 20 fois par mois pour diviser par 2 le risque de cancer. Ce qui est intéressant, c'est que ces études-là, qui sont des grosses études sur 50 000 hommes suivis plus de 10 ans, etc., c'est que, quelle que soit la tranche d'années auparavant, avant le diagnostic cancer ou pas, je vais dire par là, il est jamais trop tard pour bien faire. C'est-à-dire que même si vous mettez à éjaculer beaucoup et que vous avez 50 ans, à 60 ans, vous aurez moins de risques de cancer que l'homme de 60 ans qui éjaculera peu.
Merci encore Caleb pour votre question et bonne journée à Goma. On va prendre encore un auditeur, c'est Dieudonné qui est aussi en RDC. Bonjour Dieudonné.
Oui, bonjour.
Alors, bonjour, il va falloir que vous vous rapprochiez un petit peu du téléphone parce qu'on vous entend pas très bien.
Oui, bonjour.
Bonjour monsieur.
Alors la ligne est vraiment... Vous devez être en haut-parleur, non? Je pense que la ligne n'est pas bonne. Essayez de vous rapprocher du téléphone, enlevez le haut-parleur.
Allô?
Alors, on va passer à un autre auditeur et on vous rappelle Dieudonné. Donc, on va donner la parole à Idriss, qui est au Tchad, à N'Djamena. Bonjour Idriss.
Bonjour.
Oui.
On vous écoute.
Bonjour monsieur.
Bonjour professeur.
Bonjour.
Oui, j'apporte mon témoignage pour un frère là. Il a subi une opération au niveau de la prostate, en quelque sorte une ablation de la prostate.
Oui.
Ma question est de savoir quelles sont les conséquences après l'ablation.
Oui.
Et la deuxième question, pourra-t-il perdre ses fonctions érectiles?
D'accord. Alors, il faut savoir si votre frère a été opéré pour... un cancer de la prostate, ou simplement parce que sa prostate était grosse et le gênait. Parce que quand on dit ablation de la prostate, ça peut inclure les deux. Quand on a un traitement d'un adénome de la prostate, l'éjaculation se fait à l'intérieur, on l'a dit tout à l'heure, et après le sperme sort avec les urines, donc en principe on peut plus avoir d'enfants, mais il y a encore du sperme qui est mélangé aux urines. Lorsqu'on a eu l'ablation complète de la prostate pour un cancer, à ce moment-là, il n'y a plus de sperme du tout, puisque la prostate qui fabrique en partie le sperme. Et donc, pour ça, c'est pour répondre à la première question sur l'éjaculation. Les érections, elles, sont pas modifiées en cas d'ablation de prostate pour adénome de la prostate, donc pour une prostate grosse, mais pas cancéreuse. Par contre, pour l'ablation d'une prostate cancéreuse, les érections sont perturbées parce que on peut abîmer les nerfs de l'érection en opérant, quelle que soit la façon d'opérer, que ce soit traditionnelle avec une incision ou que ce soit avec le robot. Les résultats sont les mêmes. On peut abîmer les nerfs à peu près chez un homme sur deux a des difficultés d'érection après l'ablation de prostate pour cancer. Est-ce qu'on a répondu à votre question ?
Oui, merci beaucoup.
Merci Idriss.
Très bien.
Bonne journée au Tchad. On n'arrive pas à joindre Dieudonné, la ligne est trop mauvaise, donc je vais poser la question. Dieudonné nous dit « J'ai 32 ans, j'ai été opérée d'une hernie il y a plusieurs mois. Dans mon travail, je suis toujours en position assise et j'ai des craintes. Est-ce que le fait d'avoir tout le temps une position assise peut avoir un impact sur ma prostate ?»
Absolument pas. Et ça rejoint les questions que peuvent se poser les gens qui font beaucoup de vélo. Et dans les pelotons de vélo, on en parle beaucoup. On dit, toi, t'as fait ton PSA? Et on répond, oui, mais tu sais, moi, j'avais fait 150 km hier, c'est pour ça qu'il monte. Le PSA étant le marqueur de risque de cancer de la prostate par une prise de sang. En fait, c'est faux. Et on avait, avec mon équipe, on a dosé le PSA chez les seniors qui faisaient le Paris-Nice, donc 1000 km en vélo. Et on a fait le PSA à Paris, le PSA à Nice, et le PSA ne bouge pas. Bien qu'il y a eu 1000 km. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on est assis sur la selle, ou comme Dieudonné est assis sur sa chaise, on n'est pas assis sur sa prostate. On est assis sur ce qu'on appelle le bulbe de l'urètre, c'est en fait le canal, le début du canal de la verge. La prostate est beaucoup plus haute située, elle est située à 3-4 cm. Donc, on n'appuie pas du tout sur la prostate quand on est assis, au travail ou sur une selle.
Et une dernière question Facebook d'un auditeur, Mohamed, qui est en Guinée, qui nous demande si le fait d'avoir été opéré des hémorroïdes peut affecter la prostate en quoi que ce soit.
Absolument pas. C'est tout à fait, c'est très proche, mais c'est très différent.
Merci à tous pour vos appels, vos messages et vos témoignages.
RFI.
Professeur Desgrandchamps, on a commencé à évoquer le cancer donc de la prostate. Il en existe plusieurs types et oui. Plusieurs stades.
Oui. Oui, c'est fondamental comme message parce que avoir un cancer de la prostate, ça veut rien dire. En fait, il faut savoir si c'est un cancer agressif ou pas agressif. C'est des découvertes qui ont été prouvées, si on veut dire, depuis 10-15 ans maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des différenciations du cancer. C'est-à-dire si le cancer ressemble à la prostate normale, globalement, il n'est pas très dangereux. S'il ressemble de moins en moins à la prostate normale, il est de plus en plus dangereux. Et donc, c'est des maladies très différentes. Autant il y en a une, celle qui n'est pas agressive, donc qui ressemble à la prostate normale, qu'il faut considérer un peu comme des formes naturelles de vieillissement. Et donc, il ne faudra pas les traiter, il faudra les suivre, les surveiller. Et en principe, le risque d'être traité de ce cancer est faible, 10%, peut-être 15%. Et au contraire, parce qu'il n'évolue pas, et au contraire, le cancer agressif, lui, il peut entraîner la mort si on ne soigne pas, jamais dans les 6 mois. Hein. Le cancer de la prostate, il va mettre 5 ans, 10 ans à avoir des métastases et finir par tuer quelqu'un. Donc on a le temps de s'organiser, mais le temps de le traiter. Mais donc ces deux formes de cancer très différentes et expliquent qu'il y a une controverse sur le dépistage, parce que quand on dépiste un cancer de la prostate, on va trouver les deux formes. Et donc, le risque, c'est finalement d'être, une fois qu'on a trouvé le cancer pas agressif, de le traiter quand même, d'être une sorte d'engrenage. Et donc, la controverse sur le dépistage vient de là. La réponse, c'est oui, il faut dépister, mais non, il ne faut pas traiter tous les cancers. On dépiste le cancer, et finalement, si on trouve un cancer pas agressif, même si c'est paradoxal, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il n'y a pas de cancer agressif. Mais pour ça, il faut éduquer les patients, et l'émission d'aujourd'hui va aider, à entendre qu'on peut avoir un cancer de la prostate et ne pas avoir besoin d'être traité, parce que c'est une forme pas dangereuse de cancer.
Parce que le cancer de la prostate est un des plus fréquents chez l'homme, mais c'est loin d'être le plus mortel.
Absolument. On a, les statistiques en France, en tout cas, c'est 60-70 000 nouveaux cas de cancer de la prostate. Et j'allais dire que 8 000 morts. Malheureusement, on n'arrive pas à guérir tous les cancers de la prostate. Il y a des cancers qui sont foudroyants, des cancers qui sont métastatiques d'emblée, notamment dans les populations d'Afrique subsaharienne qui ont des sensibilités du gène aux androgènes sans doute un peu supérieures, où les formes de cancer peuvent être plus agressives. Mais il y a toutes les autres formes de cancer qui n'ont pas besoin d'être traitées, ce qui explique pourquoi sur 70 000 nouveaux cas, on n'a que 8 000 morts.
Donc ne pas forcément traiter, mais surveiller de façon active, on dit, et régulière.
C'est ça, surveillance active, c'est d'être sûr que ce cancer n'est pas dangereux. Donc c'est sur une année, on refait des examens un an plus tard pour vérifier que les choses n'ont pas bougé. Puis petit à petit, on espace la surveillance avec du dosage de PSA tous les 6 mois, puis tous les ans.
Alors justement, est-ce qu'on peut rappeler les différents dépistages ?
C'est-à-dire, comment faire le dépistage ? Alors, le toucher rectal est utile. Le toucher rectal permet de palper la prostate. On sent la prostate, on introduit le doigt dans l'anus en visant le nombril, parce que le canal anal n'est pas horizontal, pour pas faire mal. Et on sent la prostate à 2-3 cm de la marge anale, comme une petite tuméfaction, souple quand c'est un adénome. Et dedans, on sent comme une petite pierre quand il y a un cancer. Mais c'est pas un examen très sensible, c'est un bon examen de débrouillage. Le plus sensible, c'est...
Qui fait
le...
partie d'ailleurs des tabous autour de...
Qui fait un peu partie des tabous, non, mais c'est exceptionnel les hommes qui refusent, quand on explique la raison pour laquelle on va le faire, est-ce qu'on attend de cet examen. Après, c'est le dosage de PSA, mais qui est c'est pas le meilleur ami de l'homme, le PSA, parce que c'est fluctuant. Quand le PSA est élevé, il y a un risque de cancer, c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'il est élevé qu'il y a un cancer. Et le PSA est fluctuant, c'est-à-dire qu'une semaine, il peut être élevé, et puis vous dosez le même PSA la semaine d'après, normalement, hein, il peut baisser de 40%. C'est plus ou moins 20%. Et une étude toute récente montre que le PSA du matin est plus élevé de 20% que le PSA du soir. Donc c'est un marqueur d'attention, mais c'est pas un marqueur d'alerte. Donc on dose le PSA. Et puis en cas de doute, ce qui est vraiment la grande révolution dans la prise en charge du cancer, c'est l'IRM. Alors le problème de l'IRM, c'est que c'est pas disponible partout, évidemment. Même dans l'hexagone, c'est pas disponible partout, et surtout il faut savoir l'interpréter. Et l'IRM permet de voir les foyers de cancer et de faire porter des prélèvements, donc des biopsies, juste dans la cible.
Alors vous restez avec nous, professeur Desgrandchamps, tout de suite. Je vous propose de prendre la direction du Cameroun.
Priorité santé sur RFI.
Et on retrouve le docteur Edouard Hervé Moby. Bonjour.
Bonjour madame, bonjour professeur.
Bonjour docteur Moby.
Et bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital Nkongsamba à plus de 140 km de Douala et enseignant à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Douala. Docteur Moby, pour quel motif, quel trouble les patients viennent vous consulter?
En fait, aussi bien en France qu'au Cameroun, les patients ont la prostate. Et ce qui fait que les troubles que nous retrouvons dans les pays développés, en fait, c'est les mêmes que nous retrouvons également au Cameroun, c'est-à-dire des problèmes de dysurie, le patient n'arrive pas à bien uriner, le patient se réveille beaucoup la nuit pour uriner, et quand il urine, il n'arrive pas à vider totalement sa vessie. Mais ce qui est également intéressant, c'est que quand le patient commence à uriner du sang, là, il vient beaucoup plus rapidement. C'est un peu la même chose qu'en France, je pense. Mmh.
Est-ce que vous voyez quand même de plus en plus de visites médicales de routine? Est-ce que ça commence à rentrer dans les habitudes?
Ça commence à rentrer dans les habitudes, surtout que chez les patients qui sont assurés, de plus en plus les médecins du travail demandent de faire des PSA, des dépistages, hein, parce qu'on a remarqué, avec l'expérience de vie qui augmente, nous avons de plus en plus donc de maladies de la prostate, et nous avons également la chance que les réseaux sociaux, les médias, mais également les médecins font de plus en plus de sensibilisation. Donc les patients sont de plus en plus informés sur ces maladies.
Et est-ce que vous avez des chiffres sur la fréquence de ce type d'affection au Cameroun?
C'est vrai que nos chiffres ne sont pas très récents, mais je peux vous donner quelques chiffres. En 1994, par exemple, l'incidence était de 93 cas environ pour 100 000 habitants. C'est vrai que 1994, ça fait 20 ans. Je suis sûr que les études qui sont en cours actuellement nous donneront des chiffres beaucoup plus élevés. Et nous savons quand même que sur 100 maladies de la prostate, nous avons environ 40% d'adénomes, 40% de cancers et environ 10% de prostatite.
Et dans les cancers, professeur Moby, dans les cancers de la prostate que vous diagnostiquez, est-ce qu'il y a la même part que dans l'hexagone de cancers pas dangereux et de cancers dangereux? Parce que il y avait une étude qui avait été faite aux Antilles sur la surveillance des cancers pas dangereux et qui disait que finalement on peut les surveiller comme dans les populations caucasiennes. L'idée derrière étant que les populations subsahariennes et donc antillaises ont des gènes de sensibilité aux androgènes qui rendraient les cancers plus agressifs et donc que la surveillance pourrait être moins sûre. En fait, c'est pas vrai. On peut surveiller aussi bien les cancers pas agressifs que pour une population caucasienne. Et est-ce que vous avez la même perception, c'est-à-dire un pourcentage de cancers pas agressifs qui équivaut à peu près à 50% de tous les cancers que vous diagnostiquez?
C'est vrai que c'est à peu près le même pourcentage ici.
Et vous faites aussi beaucoup de surveillance alors?
on fait beaucoup de surveillance et c'est vrai, souvent également, les patients viennent à un stade relativement tardif.
Oui, ça c'est autre chose, oui, oui.
Donc
oui.
On est obligé vraiment quand même de leur apporter un traitement palliatif.
Très bien, oui.
Alors justement, ça anticipe sur ma prochaine question. J'allais vous demander si les patients viennent facilement vous consulter ou est-ce que la question est aussi taboue au Cameroun?
Comme je dis souvent, les hommes ne tombent pas malades. Les hommes ne sont pas malades, les hommes sont forts, les hommes sont courageux, les hommes ne sont pas malades. Et quand ils sont malades, ils viennent un peu tard. Et malheureusement, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Mais nous avons de la chance, comme j'ai dit tout à l'heure, que de plus en plus les assurances, chez les patients qui sont assurés, de plus en plus on fait des dépistages à partir de 40 ans et nous avons quand même beaucoup plus de patients qui viennent, parce qu'ils sont assurés. Mais ceux qui ne sont pas assurés viennent un peu tard.
C'est ça, plus on se dépiste tard et plus la prise en charge est compliquée.
Plus la prise en charge est compliquée et plus la prise en charge devient palliative. Mmh. Parce que quand on est dépisté tard, quand on a des métastases, le traitement curatif n'est plus possible.
Est-ce que vous avez quand même l'impression qu'il y a une vulgarisation des maladies de la prostate au Cameroun ?
Oui, de plus en plus. Ça, vraiment, nous avons de la chance que de plus en plus, avec l'aide de la Société camerounaise d'urologie, et parce que maintenant, de plus en plus, nous formons des chirurgiens urologues au Cameroun, donc nous avons de plus en plus de praticiens bien formés et qui prennent mieux en charge les maladies de la prostate. Et les patients le savent, les patients viennent plus souvent à l'hôpital. Nous avons également quand même malheureusement une forte concurrence des médecines, je pourrais dire alternatives, autres médecines chinoises, indiennes, et je ne citerai pas d'autres, traditionnelles africaines également, qui nous causent parfois beaucoup de problèmes.
Les hommes ont souvent recours à la médecine traditionnelle avant de venir vous voir.
Avant de venir nous voir, et souvent c'est un peu tard.
Et alors en quoi c'est un problème pour vous justement?
C'est un gros problème. C'est un gros problème. Nous avons également le souci des patients qui écoutent en fait les commentaires entre guillemets du quartier où on leur dit non, ne va pas à l'hôpital. Si tu vas à l'hôpital, on va t'opérer et tu vas mourir. Donc ce qui fait qu'ils préfèrent ne pas venir à l'hôpital.
Alors en parlant de médecine traditionnelle, est-ce qu'il n'y a quand même pas des produits de la pharmacopée traditionnelle qui peuvent être utilisés, bien sûr à condition de connaître le dosage, la posologie, etc.
Ben, le problème, en fait, de la pharmacopée traditionnelle, c'est que malheureusement, le dosage, nous ne connaissons pas. Ce sont des connaissances empiriques. Mais heureusement, avec la faculté de médecine de Douala, surtout le département de pharmacie, ils sont en train d'étudier, en fait, cette plante, en fait. Hein. L'ethnobotanique a de plus en plus d'ampleur et d'impact. Donc, ils sont en train d'étudier ces plantes et peut-être que durant les années à venir, nous aurons au moins des médicaments traditionnels où on pourra connaître le dosage, le principe actif et savoir exactement comment les donner. Mais nous savons tous que nous avons un médicament qu'on utilise pour l'adénome de la prostate, qui est le prunier d'Afrique.
Mmh. Hein, qu'on utilise aussi en France, absolument, oui.
Tout à fait. Oui. Donc nous l'utilisons ici et ça donne des bons résultats pour l'adénome de la prostate.
Et alors, quels sont les traitements dont vous disposez à l'hôpital à Douala?
En fait, je peux dire nous n'avons pas les traitements de pointe, mais nous avons quand même tous les traitements basiques, hein. Des traitements médicaux, hormonaux, chimiothérapie, radiothérapie, la chirurgie. Bien sûr, le robot, nous ne sommes pas encore à l'ère du robot.
Donc pour la prostate, ce n'est pas grave. Hein. Le robot ne fait pas mieux que la chirurgie traditionnelle pour la prostate. Pour le rein, c'est autre chose. Mais pour la prostate, toutes les études internationales montrent que pour le risque de séquelles, que ce soit les risques urinaires, de fuite ou de problèmes d'érection, robot ou incision traditionnelle, c'est pareil. Donc ce n'est pas un handicap du tout pour vous à Douala.
Merci. Mais de toute façon, nous avons quand même depuis quelque temps également la chirurgie laparoscopique qui est en train de prendre son essor au Cameroun. Mmh. Et de plus en plus, on utilise également maintenant la chirurgie laparoscopique. Mmh.
Docteur Moby, on en parlait juste avant avec le professeur Desgrandchamps. Est-ce que au Cameroun, vous constatez aussi un réflexe de forcément traiter le cancer?
Le surtraitement, quoi.
Ah, non. Ouais. Forcément traiter, déjà ici, il y a un souci de moyens financiers. Nous n'avons pas d'assurance. Donc, ce qui fait que pour traiter, il faudrait que le patient ait les moyens de payer son médicament. Donc, on ne traite pas forcément. Il y a certains cancers que l'on suit en fonction de l'âge, en fonction de son agressivité. On peut faire tout simplement une surveillance active. Donc, on ne les traite pas forcément.
Et pour conclure, est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs?
Le message, c'est de dire aux auditeurs que le cancer, les maladies de la prostate se soignent à l'hôpital. Venez à l'hôpital, allez dans les structures de santé conventionnelles pour vous faire traiter vos maladies de la prostate. Ça vous permettra de continuer à mener une vie normale et tranquille et avoir des érections normales, parce que souvent c'est de ça que les gens ont peur, en fait, ne plus avoir d'érection.
Merci beaucoup, docteur Édouard Hervé Moby, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital Nkong Samba à 140 km de Douala et enseignant à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Douala.
RFI à Douala, 97.8 FM.
Professeur Desgranchons, est-ce que vous voulez réagir à ce que vous avez entendu?
Oui, ce qui est très agréable, c'est de voir que partout dans le monde, en fait, le niveau médical est bon, et que après il y a les moyens financiers pour aider ceci, cela, mais c'est très agréable de sentir que la population du Cameroun est très bien soignée.
Et pour vous, qu'est-ce qui détermine le traitement à suivre?
Vous parlez du cancer de la prostate. Ce qui détermine le traitement, c'est en fait les risques évolutifs de la maladie qu'on a découverte. Et encore une fois, il y a deux types de cancers. Des cancers qui ne vont pas évoluer, qui seront juste locales. L'évolution sera que locale, risque pas d'entraîner la mort du patient. Et cela, faut les surveiller et puis les épargner, si je puis dire. Et au contraire, des cancers agressifs qui peuvent tuer, ceux-là, il faut les traiter, que ce soit à Douala ou à Paris. On a absolument la même perspective de distinguer les cancers pas dangereux des cancers dangereux. Et il faut vraiment que cette information passe dans le grand public pour que le grand public soit prêt à entendre en consultation. Voilà, monsieur, on a découvert un cancer, mais c'est pas une forme dangereuse. On va pas vous traiter.
Il y a plusieurs critères à prendre en compte, j'imagine le type de cancer, le stade d'évolution, mais aussi des éléments plus biologiques, l'âge, l'état général
Alors,
du patient, on n'opère pas forcément.
Pas vraiment, c'est que le critère principal, c'est la nature même des cellules cancéreuses. Il y a différents grades, et les cellules de bas grade, qui sont donc des cancers pas dangereux, sont des cellules qui ne sont pas équipées des gènes qui leur permettent de quitter l'endroit où elles sont pour aller faire des métastases. Et donc, comme il n'y a pas de risque d'évolution dans ce sens, quel que soit le volume de la maladie, quel que soit l'âge du patient, on ne va pas les traiter puisqu'il n'y a pas de risque de métastase.
Et alors, on en parlait juste à l'instant, est-ce que les traitements du cancer de la prostate entraînent des effets secondaires?
Oui, malheureusement, beaucoup, et c'est la raison pour laquelle, si suffisait de prendre un comprimé d'aspirine pour traiter tous les cancers dangereux ou pas dangereux, personne ne distinguerait ces formes, on traiterait tout le monde, et puis voilà. En fait, les conséquences sont fonctionnelles, sont importantes, notamment sexuelles. Plus tellement urinaires, c'est heureusement rare que les patients aient des fuites d'urine après les ablations de prostate ou après les rayons. Par contre, pour la sexualité, il y a beaucoup d'altérations, notamment sur les érections. À peu près un homme sur deux perd ses érections après opération ou après rayon, c'est équivalent. Et puis pour l'éjaculation est supprimée quand on enlève la prostate en entier par l'opération pour cancer, et l'éjaculation est diminuée parce que les glandes sont brûlées, les glandes qui sécrètent le sperme dans la prostate, après irradiation. Donc il y a des conséquences sexuelles très importantes, c'est la raison pour laquelle on ne doit pas, je crois, on peut dire, et il ne faut pas traiter un patient sans un environnement psycho-oncologique important. Parce qu'un homme qui a un cancer de la prostate, à un stade où on peut le guérir, est un homme qui n'a aucun symptôme. Il ne sent rien, il se sent pas malade. Et ce que l'on dit en raccourci en psycho-onco, c'est que pour bien guérir, il faut admettre d'être malade. C'est-à-dire qu'il faut admettre à un moment d'être malade pour s'en sortir. Si vous n'avez pas la conscience d'être malade, tout ce qui va vous tomber sur la tête sera considéré comme une injustice terrible et vous n'arriverez pas à bien guérir.
Et alors, comment conserver la meilleure qualité de vie possible, justement, quand on est atteint d'un cancer?
Alors, je pense que ça rejoint ce dont on parlait, que le psycho-oncologue et le malade puissent comprendre le sens des choses, le sens de la vie, parce qu'on se sent insubmersible pendant toute sa vie, et tout d'un coup, paf, c'est à son tour, quoi. Donc, c'est compliqué. On a 55-60 ans, d'habitude, pour un cancer de la prostate, et on se dit, tous mes projets d'avenir tombent à l'eau, ma retraite, c'est foutu, je ne suis plus un homme. Et c'est aussi une très grosse épreuve pour le couple. Et donc, pour bien guérir, il faut
parler... C'est vrai, parler... le couple, on en parle assez
c'est
rarement.
C'est très dur pour le couple. Hein.
Psychologiquement.
Pour bien guérir, il faut en parler beaucoup, à la fois avec quelqu'un dont c'est le métier, qui sait écouter, qui sait répartir, mais aussi avec le couple, parce que c'est une énorme épreuve pour la compagne ou le compagnon de l'homme que d'avoir un compagnon qui a un cancer.
Donc, en parler. Professeur François Desgrandchamps, merci d'avoir merci. Répondu à notre invitation et aux questions des auditeurs. Je rappelle que vous êtes chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris et auteur de l'ouvrage La prostate. On en parle aux éditions Hachette Bien-être. Et tout de suite, les questions auditeurs pour le docteur Solano. Bonjour Catherine.
Bonjour Raphaël.
Vous êtes sexologue et vous allez répondre à des questions Facebook de nos auditeurs sur la pilule. D'abord, première question de Bouddha. Est-ce que la pilule peut provoquer des stérilités?
Eh bien non, la pilule, heureusement, ça ne provoque pas du tout de stérilité. Bien sûr, quand une femme prend la pilule, elle est infertile, mais... Heureusement, parce que c'est le but recherché. Mais quand elle va arrêter la pilule, ses cycles se remettent à fonctionner. Ses ovaires vont faire des ovulations et sa fertilité redémarre. Et ça, ça survient des fois très rapidement, parfois en quelques semaines. Alors, ce qui peut diminuer la fertilité d'une femme, voire ce qui peut la rendre stérile, ce sont les infections sexuellement transmissibles, parce que le risque augmente en cas de relation sexuelle sans préservatif ou en cas de partenaire multiple. Bon, ce qui augmente aussi le risque d'infertilité, c'est d'attendre très tard pour mettre en route une grossesse. Si une femme se dit « je vais arrêter ma pilule à 40 ans parce que je veux un enfant », ben le risque, c'est qu'elle n'ait pas d'enfant, pas du tout à cause de la pilule, mais parce qu'elle va être bien moins fertile qu'elle ne l'était à 20 ou 25 ans.
Une autre question sur la pilule, question de Mahamat cette fois. Est-ce que la pilule est vraiment très efficace?
Alors, je peux dire oui quand même, la pilule, c'est une contraception très efficace, à condition qu'elle soit bien utilisée. On sait, ça a été calculé, hein, pour 1000 couples qui l'utilisent parfaitement pendant un an, on a seulement 3 grossesses, alors que sans pilule, ça serait, devinez combien, ça serait 850 pour 1000 couples. Donc, c'est une énorme différence. Mais en réalité, dans la vraie vie, quand on prend en compte les oublis de pilule ou les problèmes digestifs comme les vomissements qui font peut-être éliminer la pilule, qui font qu'elle n'est pas efficace, on a en fait 9 grossesses pour 100 couples sur une année au lieu de 85. Ça veut dire qu'il y a 9% d'échecs, ce qui quand même n'est pas négligeable. Et les chiffres que je vous donne, ce sont ceux de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé.
Et Catherine, est-ce qu'il y a des contraceptions plus efficaces que la pilule ?
Eh bien oui, il y a des contraceptions plus efficaces. La plus efficace de toutes les contraceptions, c'est l'implant contraceptif. Parce qu'avec cette contraception, il y a seulement 5 grossesses par an pour 10 000 couples qui l'utilisent. Donc c'est extrêmement efficace. En deuxième position pour l'efficacité, c'est le stérilet hormonal, avec 2 grossesses pour 1 000 couples sur un an. Et puis en troisième, le stérilet au cuivre, avec 8 grossesses pour 1 000 couples qui l'utilisent pendant un an. Mais c'est beaucoup plus efficace que la pilule quand même.
Alors, il y a des contraceptions plus efficaces que la pilule, mais d'autres le sont moins.
Exactement. En particulier, la pilule, c'est plus efficace que le préservatif utilisé tout seul. Parce que le préservatif masculin, c'est 18 grossesses sur un an pour 100 couples qui l'utilisent, au lieu de 9 sur pilule. Donc, c'est 2 fois moins efficace. C'est pour ça que quand on ne souhaite pas d'enfant et qu'on a des relations sexuelles avec quelqu'un, il est conseillé d'utiliser un préservatif, mais d'y ajouter une contraception comme la pilule ou une des contraceptions que j'ai citées plus efficaces. Et puis, il y a des méthodes moins efficaces que le préservatif, hein. C'est le retrait, donc on se retire avant l'éjaculation, 22% d'échecs, et les spermicides qui ont 28% d'échecs, c'est-à-dire 28 grossesses sur un an au lieu de 85% en couple. Bon, c'est quand même 3 fois plus efficace que de rien faire, mais c'est quand même un nombre de grossesses assez élevé.
Merci Catherine Solano, je rappelle que vous êtes médecin sexologue. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Beverly Santou, Assetou Samaké et aujourd'hui Pauline Leduc à la réalisation. Demain, nous parlerons santé mentale et plus particulièrement de la dépression, première cause d'incapacité dans le monde. On attend toutes vos questions au 33 1 84 22 75 75. Rendez-vous à 9h10 en temps universel et d'ici là, bonne journée sur RFI.
«
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance. N'oubliez pas de renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
RFI, la